Mille ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 8 juillet 1617, la condamnation à mort et l'exécution d'une des femmes les plus puissantes et les plus détestées de France à l'époque de Louis XIII, Léonora Galigai. C'était une Italienne de qualité, insolente dans sa fortune et bizarre dans son humeur. Des défauts pour lesquels on n'a jamais fait couper la tête à personne. Voltaire. D'histoire. Sur les 500 mètres qui séparent la conciergerie de la place de Grève, les Parisiens étaient si nombreux à vouloir assister à son exécution qu'il fallut une heure pour conduire Léonora Galigai jusqu'à l'échafaud. Puis le bourreau coupa le col de sa chemise, lui banda les yeux et lui trancha la tête pour la jeter aussitôt dans un bûcher. Richelieu, qui assistait à la scène, fut saisi par le courage de cette femme, comme si la mort, dit-il, lui eût été une récompense agréable et que la vie lui eût tenu lieu d'un supplice cruel. Même la foule ce jour-là ne put retenir ses larmes en voyant brûler comme une sorcière celle qui était encore quelques jours plus tôt une des femmes les plus puissantes de France. Léonora Galigai y était arrivée 17 ans plus tôt, le 9 novembre 1600, venu de Florence pour accompagner la future femme de Henri IV, Marie de Médicis.
Ah, sire, nous avons fait un rude voyage depuis Florence. Nous avons eu un temps de chien. Enfin, nous sommes à bon port. Voici enfin Madame Marie de Médicis en compagnie de Monsieur Pomponne de Bellièvre.
Mais qu'est-ce que c'est que ce laidron ?
C'est sa sœur de lait, Léonora Galigai.
D'où vient-elle ?
C'est la fille d'une blanchisseuse et d'un fossoyeur.
D'un fossoyeur ? Ben, il aurait dû d'abord enterrer sa fille.
Inès de Cretonguy, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'arrivée en France de Marie de Médicis et de Léonora Galigai, à laquelle vous venez de consacrer une biographie. Léonora Galigai, ça dit pas grand monde à beaucoup de gens aujourd'hui, on sait pas très bien qui c'était, alors que vous le rappelez, c'était une des femmes les plus puissantes de France au début du XVIIe siècle. Et c'est un destin extraordinaire parce que elle a été très puissante en France, alors qu'elle est d'origine italienne et très modeste. Je sais pas très bien si son père était réellement fossoyeur, comme on vient de l'entendre, mais sa mère était effectivement blanchisseuse.
À Florence. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème entre le père et la mère de la Galigai, et que à ce moment-là, ils sont peut-être séparés. Et on lui a proposé à la mère de venir donner son lait, en quelque sorte, à Marie de Médicis au Palais Pitti.
Sa mère s'appelait, je crois, Catherine Dory. Pourquoi elle s'appelle Galigai, sa
fille? Dory Galigai. Dory ou Dosi Galigai.
Ah, d'accord.
Donc, elle a pris le nom de sa mère par la suite.
Alors, justement, c'est par sa mère, hein, blanchisseuse, qu'elle rentre à la cour du grand-duc de Florence, au Palais Pitti, parce que sa mère, vous le dites, était nourrice. Nourrice de Marie de Médicis, c'est la fille du grand-duc de Toscane.
Je pense que pour gagner de l'argent, elle devait gagner davantage d'argent au Palais Pitti qu'elle devait gagner en tant que blanchisseuse. On lui a proposé donc de donner son lait. Elle avait la petite Léonora dans les bras et la petite Marie de Médicis à qui elle donnait son lait. Voilà, donc elles sont sœurs de lait.
Sœurs de lait, et elles vont passer toute leur enfance ensemble, la princesse, hein, Marie de Médicis, la fille du grand-duc de Toscane, et la fille de la blanchisseuse, Léonora. C'est assez extraordinaire, c'est une amitié très longue qui va commencer.
Dès les premiers mois. Elles ont ouvert, pratiquement la petite Marie de Médicis, qui était plus jeune que Léonora, a ouvert les yeux, et c'était sa sœur, en fait, en quelque sorte. Et comme elle avait perdu sa mère, et qu'elle a été séparée de ses frères et sœurs, elle a donc eu cette petite fille qui a eu tout de suite a eu un ascendant incroyable sur elle, parce qu'elle était drôle, parce qu'elle était un peu plus âgée, parce qu'elle était intelligente, alors que l'autre était plus dolente, était moins intelligente.
Alors l'autre, c'est Marie de Médicis, qui va épouser, on le décide, le roi de France, Henri IV. Henri IV, bon, c'est un mariage, ce sera la deuxième femme de Henri IV, c'est un mariage qui n'est pas un mariage d'amour, hein. À l'époque, ça ne se faisait pas, c'est un mariage d'argent, en fait.
Mais c'était pas un mariage d'amour, mais c'était en revanche un mariage auquel Marie de Médicis était persuadée qu'elle devait se marier avec le roi de France et personne d'autre. Mmh. Parce qu'il y avait eu la Pacitéa, qui était une voyante de l'époque, et une sœur, qui avait dit qu'elle devait épouser un jour le roi de France. Donc elle y croyait dur comme fer. Et la petite Léonora, qui était donc dans l'ombre de Marie de Médicis, espérait bien que Marie de Médicis épouserait le roi Henri IV et qu'elle-même jouerait un grand rôle à ce moment-là à la cour de France.
Alors justement, Marie de Médicis va amener Léonora avec elle. Avant, il faut le rappeler, ça se faisait beaucoup à l'époque, le mariage a lieu à Florence, dans ville de Marie de Médicis, par procuration. Henri IV n'est pas là.
De toute façon, il est très pris par toute sa vie mondaine, disons, à la cour. Mmh. Il n'avait pas l'intention du tout de venir à Florence.
Et alors, pendant le voyage qui va conduire, après ce mariage par procuration à Florence, pendant le voyage qui va conduire les deux femmes, hein, Marie de Médicis et Léonora, en France, Léonora rencontre un autre qui fait partie du voyage, qui s'appelle Concino Concini. Hein, ça va être son futur mari, et là, c'est le coup de foudre, du moins, du côté de Léonora.
En tous les cas, certainement pour elle, parce que Concino Concini était un très bel homme, et il avait l'air facile, il était très attirant certainement. Elle était beaucoup moins jolie, mais lui, elle l'a remarqué parce que il a bien vu qu'elle était dans l'ombre de Marie de Médicis, et il s'est dit que pour atteindre la reine, il fallait passer par Léonora.
C'est un peu un gigolo, hein, Concini.
C'est un gigolo.
Le portrait que vous en faites, en tout cas, il n'est pas forcément flatteur.
Non, mais enfin bon, il n'était pas antipathique non plus.
Et c'est donc tous les trois ensemble que Marie de Médicis, Léonora Galigai et Concini arrivent en France, où Marie de Médicis rencontre pour la première fois son mari à Lyon le 9 décembre 1600, Henri IV, le vert galant, très pressé, semble-t-il, de consommer le mariage.
Madame, vous voilà devant le roi de France. Pour ce qui est du lit, je vous prêterai le mien.
Il faudrait au moins attendre, sire, que le légat du souverain pontife procède à la bénédiction nuptiale.
Sa sainteté déclare suffisante les cérémonies qui ont eu lieu à Florence sans moi.
Que vilaine!
Je ne m'habituerai jamais à celle-là.
C'est sa sœur de lait, Léonora Galigai.
Et l'autre escogriffe, hein.
Un gentilhomme florentin, Concini, sire.
Concini?
Concini, sire.
Débarrassez-moi de cela.
Impossible, il ne la quitte pas.
Eh bien, madame, vous perdez l'Italie, mais vous gagnez un royaume qui vous sourit. Nous prendrons soin de votre escorte. Quittez un peu votre sœur de lait pour embrasser votre roi.
Inter de 1000 ans d'histoire aujourd'hui, Léonora Galigai, et ce chant interprété par l'ensemble Douce Mémoire, un tédéum composé par Claude Lejeune pour le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis. Henri IV qui semblait très pressé, on l'a entendu, de consommer le mariage, Inès de Kertangui.
Ah oui, ça certainement, surtout qu'on lui avait présenté un petit portrait de sa femme, de sa future femme, c'est tout ce qu'il en connaissait. Et quand il est arrivé à Lyon, il est arrivé incognito en disant: je vais la voir de loin au milieu de mes courtiers. courtisan, et comme ça je veux bien voir si elle me plaît ou pas. Et puis en fait, il n'arrive pas incognito, parce qu'elle le reconnaît immédiatement, et lui la trouve fort à son goût, et le soir même, il lui dit, bon, bah, écoutez, on va dîner ensemble, donc elle est toute rougissante, etc., il commence à lui faire une cour effrénée, et le soir, il lui dit, mais écoutez, je suis désolée, mais comme je n'ai pas de lit, il va falloir qu'on soit dans le même lit. Et à ce moment-là, elle dit, mais c'est trop tôt, on n'a pas été mariés, etc., il y a du problème.
Alors, ça, à tel point, d'ailleurs, que 9 mois plus tard, va naître Marie Médicis, accouche du futur Louis XIII.
Absolument.
Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, Henri IV va être le père d'un enfant naturel, d'une maîtresse, hein, qui était Henriette d'Entragues, qui ne cachait pas à Marie Médicis. La pauvre Marie, elle arrive, elle se rend compte de son infortune assez vite.
C'est-à-dire que il couche avec sa femme, et 15 jours après, il s'en va et il rejoint sa maîtresse. Et quand Marie Médicis va arriver enfin à Paris et va être présentée à toute la cour, on va lui présenter, Henri IV va demander qu'on présente aussi Henriette d'Entragues. Personne ne va vouloir le faire, donc c'est Henri IV lui-même qui va le faire en disant « Celle-ci était ma maîtresse ». Et le « était » était de trop, puisque c'était absolument le présent.
Oui, enfin, c'était le vert galant, hein, on le savait. Alors, cela dit,
non, mais elle
ne
le savait pas.
Elle ne le savait pas, mais en tout cas, elle s'en rend compte assez vite. Elle est assez malheureuse, et c'est là aussi que Concini et Leonora Galigai, qui d'ailleurs, entre-temps, se sont mariés, vont jouer un rôle énorme. Ils vont la consoler, ils vont être autour d'elle en permanence.
Je dirais plutôt Léonora. Oui. Concino essayait de plaire d'abord à Henri IV. C'était pour lui important. Il pensait que grâce à ça, il allait pouvoir avoir un poste important à la cour. Mais Léonora, en revanche, qui est la sœur de Marie Médicis, faut pas l'oublier, sa meilleure amie depuis toujours, sa sœur, je dirais vraiment sa sœur, va l'aider, et chaque fois qu'elle aura un chagrin, chaque fois qu'Henriette d'Entragues se mettra sur son chemin, elle va s'épancher auprès de Léonora.
Qui était très très laide, hein. Je le lis dans votre livre, un portrait fait d'elle par Talmant des Réaux, définissant Léonora Galigai, cheveux de méduse, front poli comme une pierre ponce, nez d'éléphant, dents en croc, mains de harpie, pieds de homard. Bouche petite comme l'entrée d'un four.
Écoutez, c'est pas un beau portrait, ça. Je pense qu'il était très méchant.
Oui.
Donc, en fait, cette femme avait les cheveux noirs, et évidemment en France on préférait les cheveux blonds. Elle était maigre, alors qu'on préférait les femmes potelées. Mais elle avait en revanche, je sais pas, est-il un regard. Elle avait une intelligence, elle avait une vivacité. Elle était extrêmement drôle en plus. Et tout ça, quand même, ça compte.
Et alors elle va pas jouer un grand rôle au début, sauf que Marie de Médicis réussit à obtenir pour elle un rôle de dame d'atour. C'était quoi une dame d'atour?
C'était très important. C'était extrêmement important pour Marie de Médicis d'avoir Léonora comme dame d'atour, parce que c'était une femme qui s'occupait des atours, c'est-à-dire de tout ce qui était vestimentaire et coiffure de la reine, et c'est-à-dire que du matin au soir, elles étaient ensemble, et ça permettait surtout à Léonora d'avoir un appartement au-dessus de celui de Marie de Médicis. Grâce à quoi, par un petit escalier, elle se rejoignait le soir.
Elle était, dites-vous, avec Dame d'Atour, c'était très important à l'époque, et la seule à pouvoir s'occuper des cheveux de la reine.
Madame, que pensez-vous de votre coiffure?
N'est-ce pas un pain de sucre?
C'est ainsi que l'on porte les cheveux à Florence.
Mais nous sommes à Paris.
Monsieur Concini, comment pensez-vous?
Comment?
Quoi?
Ah, si, naturellement. À la belle ouvrage. Quelle dame d'atour vous faites?
Monsieur Concini,
qu'avez-vous?
Une boule dans la gorge qui me travaille. Elle m'a pour m'étouffer.
Et c'était Léonora Concini, prise d'un malaise en coiffant la reine. Elle était effectivement, vous le dites, Inès Ekertanguy, très malade. Vous parlez même d'une maladie qu'on ne connaissait pas à l'époque, dont on ne connaissait pas l'origine en tout cas, de l'épilepsie.
Absolument. Épilepsie, ou on disait hystérie à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quelle était cette maladie. Elle devait tomber en convulsion, en fait, et elle faisait peur à tout le monde. Et elle a été malade dès son arrivée, quelques mois après son arrivée en France, et elle était persuadée qu'elle avait été envoûtée.
Oui.
Donc, Oui, et donc, si vous voulez, elle, à la fin, elle ne voudra même plus qu'on la regarde dans les yeux en disant, mais chaque fois qu'on me regarde, on risque de m'envoûter, donc je ne veux plus qu'on me regarde jamais dans les yeux.
Au point qu'elle faisait, je crois, laver sa vaisselle à l'eau bénite, elle s'entoure aussi de mages et de charlatans, et ça, c'est très important pour l'avenir, parce que c'est ce qui va servir de prétexte à la condamner beaucoup plus tard pour sorcellerie.
Alors, au départ, étant donné qu'elle est italienne et très croyante, elle va d'abord demander à des capucins de venir prier pour elle et d'essayer de l'aider dans sa maladie, etc. Puis ça ne va pas marcher. Donc finalement, elle va appeler des juifs, et à l'époque c'était très mal vu d'avoir des juifs à la cour, et elle va appeler deux médecins juifs, Alvarez et Montalto, qui vont rien pouvoir faire pour elle, parce qu'ils ne connaissent pas la maladie, et n'ayant pas réussi par ce biais-là non plus à se faire soigner, elle va finir par tomber dans l'exorcisme.
Alors pendant les 10 premières années de sa présence en France, Eleonora Galigai, c'est-à-dire les 10 dernières années du règne de Henri IV, Henri IV gouverne, donc Marie de Médicis ne joue aucun rôle politique, pas plus d'ailleurs que Eleonora Galigai, ni même son mari Concini.
Absolument.
Il se contente de s'enrichir quand même pas mal à l'époque déjà,
oui,
grâce à la reine toujours.
Un petit peu.
Et puis alors, l'assassinat d'Henri IV intervient, donc en 1610. On a dit que les Concini, ou en tout cas Léonora, étaient responsables de cet assassinat d'Henri IV par Ravaillac, qui était derrière tout ça.
On l'a dit longtemps, et en fait, maintenant, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être. Concino n'avait pas l'étoffe d'un homme. D'abord, il n'avait aucune raison de tuer Henri IV, parce que c'était la poule aux œufs d'or pour lui. Il espérait toujours, il s'entendait bien avec Henri IV, il espérait toujours que Henri IV lui donnerait des causes de plus en plus importantes, ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, comme espérance. Et quant à Léonora, elle s'intéressait surtout à Marie de Médicis et pas du tout à Henri IV. Donc c'était pas un problème.
Donc à la mort de Henri IV en 1610, Louis XIII n'a que 9 ans, et donc il y a régence. Il y aura eu plusieurs fois régence dans l'histoire de France. À chaque fois d'ailleurs il y aura des problèmes. Et alors la régence est assumée par Marie de Médicis d'abord, qui brusquement découvre la politique et éprouve de l'intérêt d'ailleurs à faire de la politique.
Henri IV avait essayé de mettre au courant sa femme de la politique en disant on ne sait jamais ce qui peut m'arriver, et Louis XIII est tout petit, donc il faudrait peut-être la mettre au courant. Et elle n'avait jamais voulu faire l'effort. Elle était dolente, elle n'aimait pas se lever tôt le matin, elle n'aimait pas travailler, et elle ne voulait rien savoir. Et tout d'un coup, elle devient régente et elle se prend une passion totale pour la politique. Mais il faut imaginer que dessous, il y a quelqu'un qui œuvre. Et ça, c'est Léonora qui, elle, est passionnée.
Alors, on aurait pu s'imaginer que c'était, parce qu'on parle souvent de régence de Concini, que c'était le mari de Léonora, que c'était Concini. D'ailleurs, que Marie de Médicis, profitant de sa régence, couvre d'honneur. Par exemple, elle le fait maréchal d'encre, maréchal, lui qui n'avait jamais tiré une épée de sa vie, Concini.
Absolument. Et c'est là où la France va commencer à se révolter, parce qu'il va avoir petit à petit de plus en plus de... Le problème était le suivant. Léonora était d'une famille très simple, une fille de blanchisseuse, comme on l'a dit. Concino, en revanche, était comte de la Pena. Donc c'était il n'était pas rien déjà, si vous voulez, sur le plan politique. Il pouvait espérer un rôle. Mais elle, en tant que donc fille de blanchisseuse, italienne, elle ne pouvait pas paraître. Et puis elle était malade. Donc elle avait toujours peur de tomber en convulsion devant tout le monde. Donc elle était en retrait. Et elle va tirer les ficelles.
Oui, parce que
du
vous parlez
pouvoir.
Même de règne de Léonora. Concini, en fait, il s'occupe des titres, il est flatté, il est vaniteux comme un paon, etc. Et elle, pendant ce temps-là, c'est elle qui, par le truchement de la reine, gouverne littéralement la France. C'est absolument extraordinaire le pouvoir qu'elle a. D'abord, sur le plan politique, vous dites qu'elle a joué un grand rôle, par exemple, dans une politique qui était très importante à l'époque, le rapprochement entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire en fait la politique contraire de celle de Henri IV.
Complètement contraire de celle d'Henri IV, mais Marie de Médicis, qui est donc papiste, et qui, forcément, par son éducation, et qui ne veut pas que l'Espagne, qui était donc très importante à l'époque, beaucoup plus importante que la France, elle voulait pas s'en faire un ennemi. Donc elle va revirer, et grâce à Léonora, qui bien sûr est derrière, et elles vont faire une politique pro-espagnole, qui va être très mal comprise des Français, bien entendu, puisque Henri IV était contre.
Et tellement pro-espagnole, d'ailleurs, que c'est Léonora et Marie qui arrangent le fameux mariage entre Louis XIII, le jeune Louis XIII encore, et l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche.
Tout à fait. Et ainsi que le mariage d'Elisabeth, sœur de Louis XIII, ouais, avec le prince des Asturies.
Alors, elle a quand même du jugement, Léonora. Vous dites qu'elle gouverne littéralement la France, mais par exemple, elle choisit des hommes de qualité. C'est elle qui a introduit Richelieu à la cour.
Elle a introduit beaucoup d'hommes remarquables, dont Richelieu bien sûr, c'est celui qu'on retiendra, que l'histoire retiendra, mais surtout, elle est toujours, il faut dire une chose, elle est toujours d'une régularité totale, elle est régulière vis-à-vis de Marie de Médicis, c'est-à-dire que elle ne lui fait jamais une crasse, elle est toujours, elle essaye de faire pour le mieux, comme si c'était pour elle. Et comme elle est très intelligente, elle va choisir des hommes remarquables. Et elle va les mettre en place.
Alors cela dit, elle a quand même malgré tout beaucoup d'ennemis. Plutôt d'ailleurs son mari, Concini, qui est très vaniteux, qui est détestable même. Mais ils sont tous les deux détestés, il faut bien le dire, que ce soit Léonora ou que ce soit son mari Concini. On leur reproche évidemment leur pouvoir, leur argent, leurs origines italiennes, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de xénophobie dans la haine populaire contre les Concini, enfin contre Léonora
Depuis que Catherine de Médicis avait fait venir tellement et tellement dans sa suite tellement d'Italiens que les Français en avaient pris horreur. Et c'est ce qui va recommencer à ce moment-là.
Et le petit Louis XIII là-dedans, parce qu'au fond, il est roi, depuis la mort de son père, et il est tout jeune, il est entre 9 et 16 ans, et on a l'impression qu'il compte pour du beurre à l'époque.
Non, mais la grande erreur, d'abord, Marie de Médicis n'était pas une bonne mère, elle n'avait pas eu elle-même une enfance heureuse, donc elle serait incapable de donner de l'amour à ses enfants, puis à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et en plus, Marie de Médicis pense que son fils est nul, et elle n'arrêtera pas de lui dire, et elle ne veut en aucun cas qu'il fasse quoi que ce soit, et surtout qu'il émerge en tant que roi. Donc elle s'en sert, parce que c'est le roi et qu'elle est bien obligée de passer par lui, mais c'est l'erreur totale de Concino Concini, et surtout de Léonora, je dirais surtout de Léonora, de ne pas avoir réfléchi que cet enfant était le futur roi, et qu'ils en auraient forcément besoin un jour ou l'autre. Et Louis XIII, dans son coin, va nourrir une haine féroce pour les favoris de la reine, et il va jusqu'au jour où il ne pourra plus les supporter.
Et ce sera le 26 avril 1117, ce jeune roi de 16 ans, Louis XIII, se rebiffe et fait assassiner Concini, qu'il accuse d'avoir trempé dans un complot.
Je vous ai fait confiance, je vous avais donné mon amitié, et vous m'aviez promis la vôtre. Vous m'aviez fait le serment de défendre votre roi en toutes circonstances, et vous combattez l'épée à la main aux côtés de conspirateurs. La politique de Concini était de nous diviser, mais cette époque est révolue. Ce matin, sur mon ordre, Concini a été exécuté par Monsieur de Vitry.
Sire, malgré votre jeunesse, vous venez de prouver que vous êtes un grand roi. Messieurs, Concini est mort. Vive le roi !
Vive le roi ! Vive le roi !
C'était donc l'assassinat de Concini sur ordre de Louis XIII, qui à l'âge de 16 ans donc décide de gouverner lui-même, et aussitôt il va faire arrêter, bien sûr il fait assassiner Concini, hein, mais il fait aussi arrêter Léonora, et là on se demande quel va être le comportement de la reine mère, de Marie de Médicis, de la mère de Louis XIII, et de l'amie de Léonora depuis 40 ans. Or vous nous dites, Inès Ekertanguy, qu'elle laisse complètement tomber Léonora.
Eh bien écoutez, Léonora avait eu une parole en disant qu'elle aimait énormément Marie de Médicis, qu'elle la laisserait jamais tomber ce qu'elle avait fait, mais que c'était une femme dolente et que c'était une femme pas très intelligente. Elle avait osé le dire un jour, et c'est exactement vrai. Le jour où Marie de Médicis se rendra compte que les Concino Concini et Léonora sont fichus, arrêtés, assassinés, eh bien elle les laissera tomber, parce qu'elle pensera plus qu'à elle.
Il faut dire qu'elle-même, le jour même de ce coup d'État, Louis XIII, en quelque sorte, hein, en 1617, elle-même ne compte plus beaucoup, parce que son propre fils, Louis XIII, va se débarrasser, enfin, pas de la même manière, hein, mais il va littéralement l'envoyer en exil, sa mère.
Ah oui, complètement, à Blois. Et il va l'envoyer en Blois, et il ne peut plus supporter sa mère. Sa mère, vous savez, il était très orgueilleux, Louis XIII. Et il a rongé son frein pendant des années et des années. Et quand il est devenu adolescent, c'est-à-dire qu'il a eu 15 ans et 3 quarts, il n'avait même pas 16 ans au moment de ce coup d'État, il a fallu qu'il prenne sur lui en disant « Mais maintenant, je veux régner ». La France était au bord de la guerre civile. On, de toutes parts, il se rendait compte que c'était le désordre et qu'on espérait en lui. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre le pouvoir.
Et donc d'assassiner Concini, de mettre sa mère à l'écart et Léonora dans tout ça. Alors elle est arrêtée, et elle va être, alors pour s'en débarrasser, il faut trouver un prétexte, on va l'accuser de sorcellerie.
Absolument.
Ça c'est grave à l'époque.
Hein. Et alors que la France, qui détestait les Concino Concini, qui détestait les Concini en général, et Léonora avec, tout d'un coup va se rendre compte qu'on fait, on fait un procès à Léonora qui n'est absolument pas le bon procès. C'est vrai qu'elle s'est enrichie, c'est vrai qu'elle a fait des malversations, c'est vrai qu'elle n'a pas fait attention aux Français. C'est vrai qu'elle a mal agi vis-à-vis de Louis XIII, mais
Mais c'est pas ça qu'on lui reproche, justement. C'est pour ça qu'elle procède en sorcellerie. On dit, mais regardez, elle a eu recours à la magie pour se soigner, etc. Et on dit, c'est une sorcière. C'est terrifiant.
On ne trouve que ça à lui reprocher, finalement. Comme c'était un crime à l'époque, donc sorcière, ça se passait bien.
Alors, elle est condamnée à mort le 8 juillet 1617 et elle est exécutée le jour même dans des conditions effroyables.
Effroyables. Et alors, cette femme qui était malade pendant des années, ne pouvait plus se montrer devant qui que ce soit, etc., tout d'un coup, on va lui faire son procès et elle va répondre du tac au tac à chaque question. Pendant 21 jours de suite, elle va se battre, mais elle va retrouver toutes ses possibilités. Elle ne va plus avoir d'attaque, donc c'était quand même un problème. Le jour où il faut qu'elle se batte, elle n'est plus malade et on décide donc c'est-à-dire que c'est le favori de Louis XIII.
Louis,
qui était très très jaloux des Concini, parce que lui il n'avait pas le tiers de ce que les favoris de la reine avaient, et qui va dire, moi je veux avoir sa fortune, je veux avoir tous leurs titres, et donc pour ça il faut forcément, voilà.
Il va tout prendre, et Léonora va mourir comme une sorcière, c'est absolument effrayant, avec une foule, c'est ce que disait Richelieu, qui lui aussi connaîtra un petit exil, avec une foule qui se met à pleurer parce qu'il trouve que cette femme a un courage inouï, parce qu'on lui bande les yeux, elle les arrache, on lui coupe la tête, on la brûle, etc. C'est assez pathétique ce destin pour une femme qui a eu tant de pouvoir.
Et c'est là où elle va montrer à la foule entière sa force de caractère qu'elle a toujours eue. Elle s'est jamais montrée parce que elle était malade et qu'elle préférait l'ombre. Mais là, tout d'un coup, les Français vont reconnaître cette femme, une femme extraordinaire.
Merci Inès de Kertanguy, en tout cas, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir Léonora Galigai et son pouvoir, que l'on retrouve aussi dans votre livre, Léonora Galigai, l'âme damnée de Marie de Médicis, une biographie qui vient d'être publiée aux éditions Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Capitaine d'André Hunebelle, disponible en DVD chez TF1 Vidéo, et puis Henri IV, Le Vergalant, un téléfilm de Pascal Salamin et Georges Wodiski, d'après l'œuvre de Monique Lachère. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à mon équipe, Patrick Henry et Philippe Jurado, Claire Destacan, Claire Tessère et Violaine Ballet, et la Galigaille de 2000 ans d'histoire, la maréchale de Comilac. Demain, dans notre émission, l'origine des noms de famille, mais tout de suite à 14h30, très précise, un nom bizarre.